Bonjour, à Tire-d'Aile, l'émission de la LPO Aveyron, présentée par Jean-Claude Issaly, bénévole et administrateur. Au programme aujourd'hui, nourrir les oiseaux. Pourquoi ? Quels sont les besoins des oiseaux ? Quand est-ce qu'on peut les nourrir ? Comment on peut s'y prendre ? Quelle nourriture on peut leur donner ? Quelle quantité ? Où les nourrir ? Quels oiseaux on peut nourrir ? Quels oiseaux on peut voir ? Voilà le programme de ce jour. Donc, pourquoi nourrir les oiseaux en hiver ou en période hivernale ? Donc, c'est qu'en hiver ou en période hivernale, les ressources disponibles pour les oiseaux s'amenuisent et ils peuvent avoir quelques difficultés. Alors, certains quittent nos contrées pour aller dans des contrées plus clémentes, mais on en a pas mal qui sont sédentaires, qui restent ici, et on en reçoit aussi qui sont des hivernants qui viennent passer l'hiver chez nous. Donc peu à peu, les baies des arbustes sont consommées, il en est de même pour les graines sauvages ou pour les graines cultivées. Si on prend l'exemple des céréales à paille, par exemple le blé, l'orge qui sont moissonnées fin juin ou en juillet, ben les oiseaux vont en profiter pendant en juillet, en août, pour récupérer les graines tombées, les graines qui n'ont pas pu être récoltées. Mais après, début septembre ou fin septembre, il n'y a plus grand-chose. Alors avec des récoltes plus tardives, comme le tournesol ou le maïs, là, il reste effectivement des graines dans les champs. Mais là aussi, pareil, au cœur de l'hiver, elles peuvent disparaître ou ne pas être accessibles à cause du gel ou de la neige. Donc l'objectif, c'est de permettre aux oiseaux, qu'ils soient sédentaires ou hivernants, de mieux passer cette période froide. Car on sait qu'un oiseau qui se nourrit bien est un oiseau qui ne craint pas le froid. S'il passe un bon hiver, il pourra être plus apte à démarrer sa saison de reproduction par la suite. Donc nourrir les oiseaux, c'est aussi un bon moyen de maintenir, d'améliorer un bon écosystème sur son terrain, sur son jardin, voire sur sa terrasse, de la rendre un petit peu plus vivante. Alors, quels sont les besoins des oiseaux ? Les oiseaux, pendant l'hiver, ils ont besoin de calories, ils ont besoin d'énergie. Et ils vont les trouver surtout dans les lipides, donc les matières grasses. Donc, on va privilégier les aliments qui sont riches en lipides, comme les graines d'oléagineux, les graines d'oléoprotéagineux. On peut aussi utiliser du gras animal, on va en parler aussi. Alors, ils n'ont pas que des besoins en lipides, ils ont aussi des besoins en protides et en glucides. Bon, mais là, ce seront pour les glucides, je dirais les sucres, ça va être surtout les céréales. Et pour les protides, c'est plus les légumineuses. Mais bon, toutes les graines contiennent à la fois des protides, des glucides et des lipides, mais en quantité beaucoup plus variable. Quand peut-on nourrir les oiseaux ? Donc, bien sûr, en période hivernale. Mais ce que je voulais préciser, c'est qu'il ne faut surtout pas les nourrir toute l'année. On peut créer des dépendances et des déséquilibres alimentaires qui peuvent être très préjudicieux, notamment aux oisillons qui sont au nid. Et puis, on rompt le mécanisme de la chaîne alimentaire. Les oiseaux vont au plus facile. S'ils trouvent une source de nourriture, ils vont aller que sur celle-là. Ils ne vont pas rechercher, notamment pour l'élevage des jeunes, les insectes, les araignées, etc., qui peuvent amener d'autres protéines, d'autres sources aux oisillons qui en ont vraiment besoin. Donc, il est important que les oiseaux gardent leur autonomie de recherche de nourriture. Donc, vraiment, vraiment, ce serait une grosse erreur de les nourrir toute l'année. Alors, après, quand on a commencé, on ne s'arrête pas d'un coup. Ce n'est pas parce qu'un jour il fait très doux qu'on va dire « Ah, je stoppe complètement de nourrir aujourd'hui ». Bon, il vaut mieux continuer. On nourrit en général de novembre à fin février, début mars. Mais bon, on attaque aux premières gelées, elles peuvent être effectivement début novembre, elles peuvent être fin novembre, elles peuvent être début décembre, voilà. Donc il est important de les nourrir quand les oiseaux en ont vraiment besoin. Comment on peut s'y prendre pour les nourrir ? Alors, on peut les nourrir au sol, Bon, si on a un terrain en herbe, bon, on ne va pas mettre des graines dans l'herbe. Par contre, les fruits, oui. Si on a des surfaces relativement lisses, hein, des terrasses, et quand c'est sec, on peut mettre des graines au sol. Voilà. Certains nourrissent les oiseaux sur un mur, hein, parce que ça fait une surélévation et ça peut être intéressant aussi. Et bien sûr, on peut les nourrir dans des mangeoires, dans des nourrisseurs, qu'on placera sur un mur, contre un bâtiment, contre la maison, sur un poteau. Une mangeoire sur un poteau, ça peut être intéressant. Sur un arbre, suspendu, accroché à des branches, etc. Dans tous les cas, il faudra que la fixation soit solide et que ça ne bouge pas, que le vent ne fasse pas tomber ce qu'on y met. Enfin, voilà. Alors après, on peut se poser la question aussi de quel type de mangeoire on peut utiliser. Donc, si vous allez sur le catalogue de la LEPO, vous verrez que les modèles de mangeoires sont extrêmement divers. Il y en a beaucoup, en bois, en plexiglas, etc. Des mangeoires avec trémie, des mangeoires bouteilles, des mangeoires plateaux, etc. Voilà, tout ce qui est, je dirais, mangeoire avec une réserve, avec une trémie. L'inconvénient, c'est que si on utilise des mélanges de graines, les oiseaux vont, pour rechercher les graines qui les intéressent le plus et qu'ils aiment le plus, ben ils vident carrément la trémie des fois en quelques heures, alors qu'elle était prévue pour tenir 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, etc. Voilà, c'est un petit peu l'inconvénient. Mais sinon, si on n'utilise qu'une seule catégorie de graines, la mangeoire trémie, ça peut être intéressant. Alors, il existe des mangeoires bouteilles aussi qui font réserve, qui sont très bien. On peut les construire aussi soi-même. Moi, ce que je conseille le plus, c'est la mangeoire plateau. On peut l'acheter aussi. On peut la construire soi-même aussi. Les dimensions, je dirais minimum 20 cm sur 30 cm, avec un petit rebord de 2 ou 3 cm, quelques trous pour permettre à l'eau de pouvoir s'évacuer, des trous assez fins et que les graines n'y passent pas. Voilà, moi je préconise d'y mettre une toiture avec un minimum de 20 cm au-dessus du plateau. J'en ai fait plusieurs avec un toit en plexiglas, ce qui permet de garder une bonne luminosité sur le plateau. Et du coup, les graines sont mieux abritées, se conservent mieux et ça limite aussi les parasites ou le développement de certaines bactéries. Voilà, donc ça c'est quand même important. Et puis une mangeoire à plateau, c'est peut-être aussi assez facile à nettoyer. Voilà, on va faire une petite coupure musicale et je vous retrouve juste après. Where are you going? C'était Carry On de Crosby, Stills, Nash & Young. À Tire-d'Aile, l'émission de la LEPO Aveyron. Donc, nous continuons sur le nourrissage des oiseaux en période hivernale. Alors, quelle nourriture pouvons-nous utiliser pour les oiseaux? Alors, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas donner n'importe quoi. Il ne faudrait pas que notre aide se transforme en handicap pour eux. Par exemple, plusieurs personnes m'ont dit « Moi, je mets du lard, les oiseaux, pendant tout l'hiver, ils viennent le piquer, c'est super, il y a toujours des oiseaux, il y a de la vie, etc. » Je dis « C'est très dangereux parce que leur donner du gras salé, les oiseaux qui vont le consommer en début de période hivernale ne vont pas être les mêmes que ceux qui vont le consommer à la fin, parce qu'ils vont faire une indigestion de sel et ils vont en mourir. » Donc, bon, leur donner un petit peu de lard un jour ou deux, c'est pas trop grave, mais il faut absolument l'éviter, quoi. C'est comme le pain sec ou même le pain frais. Bon, Si on leur met quelques miettes de pain sur le rebord de la fenêtre tous les jours, en 3 minutes ça disparaît, c'est pas un souci. Mais leur en donner en permanence, ce n'est pas une bonne chose. Les oiseaux cumulent le sel et d'autres éléments et ça peut leur poser de gros problèmes digestifs et ils peuvent en mourir. Donc, si vous donnez du gras, ben, récupérez du gras de viande chez votre boucher, il n'y a pas de souci, mais surtout du doux. On peut leur donner aussi du beurre, de la margarine, bien sûr, mais non salé. On peut leur donner aussi des fruits, des baies, des pommes, des poires, des fruits avariés. Vous pouvez demander, tous les magasins en bio sont très ouverts, en tout cas pour les Biocoop sur l'Aveyron et le Lot, elles sont très très à l'écoute. Vous pouvez leur demander les fruits avariés. Moi j'ai même donné des mangues, les oiseaux les apprécient. Par contre il faut éviter les fruits acides, il faut éviter les agrumes. Mandarines, clémentines, oranges, etc. Ça c'est à éviter. Quelque chose d'intéressant, ça peut être la noix de coco. Une noix de coco toute naturelle, hein. Vous la coupez en deux, vous la percez dans le creux et vous la vissez sur, par exemple sur le piquet qui vous sert de support à la mangeoire. Et là, vous verrez que les piques, notamment, apprécient beaucoup la chair de la noix de coco, mais les mésanges aussi. Bon, ils mettent du temps à la consommer, mais ça, c'est quand même assez intéressant. Par contre, ça, c'est une nourriture qui peut être toxique pour les oisillons, donc au moment de l'élevage des jeunes. Donc encore un argument pour ne pas nourrir les oiseaux toute l'année, et notamment en période de reproduction. Après, il y a plein de petites astuces qu'on peut utiliser. Par exemple, les croquettes pour chats, vous en écrasez deux ou trois tous les jours. Ça fait une petite, c'est un petit peu plus virulent, c'est un peu des petites graines. Et ça peut être intéressant pour les oiseaux insectivores, ou ceux qui sont en partie. On peut aussi acheter de la nourriture, on peut acheter des bâtons de nourriture, on peut acheter des pâtés spécifiques, et bien sûr les boules de graisse qui sont dans lesquelles on incorpore des aliments, des graines, etc. On peut aussi les fabriquer soi-même. On peut aussi trouver des insectes, des sachets d'insectes, des vers de farine. On peut aussi les élever soi-même. Hein, les amateurs de fourmis, ceux qui ont des reptiles, des serpents, ceux qui ont aussi des oiseleurs, hein, qui ont des oiseaux insectivores, peuvent faire de l'élevage de vers de farine, et c'est très très intéressant pour nos rouges-gorges, accenteurs, etc. Voilà. Mais on peut en acheter aussi en sachet, et tout prêt à consommer. Je vais revenir sur les graines, parce que c'est quand même ce qu'on utilise le plus. Alors, le blé, l'orge, le maïs, on peut, mais bon, à ce moment-là, il vaut mieux soit les écraser, soit les avoir broyés un peu grossièrement. C'est pas ce qu'ils préfèrent, mais ils peuvent les consommer quand même. S'il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de souci. Alors, il y a des graines qui sont plus adaptées. Si vous allez chez un grainetier, le millet, l'alpiste, le chènevis, le colza... Mais voilà, ce que je conseille le plus et le plus facile, c'est le tournesol. Le tournesol est un oléoprotéagineux, donc riche en huile. Il peut être brut ou décortiqué. Alors c'est intéressant d'avoir quelques graines décortiquées ou quelques éclats, parce que des oiseaux comme le rouge-gorge, que vous voyez beaucoup venir à la mangeoire, mais souvent on dit qu'il vient, mais voilà, il peut manger quelques petits éclats. C'est de même pour le merle, pour d'autres oiseaux, l'accenteur mouché, qui ont besoin de... Enfin, sont plutôt insectivores et peuvent apprécier effectivement les graines un peu décortiquées. Les quantités. Alors, si on a une mangeoire trémie, ça peut être... intéressant, notamment quand on s'absente, parce qu'effectivement, vous remplissez votre trémie et pendant quelques jours, les oiseaux vont pouvoir continuer à compléter leur alimentation. Si vous êtes là tous les jours, moi, ce que je conseille, c'est de mettre la quantité qui est consommée chaque jour. Le bon repère, c'est qu'à milieu d'après-midi, tout doit être terminé. Plus de graines dans la mangeoire plateau. Ainsi, tous les jours, on peut nettoyer. On peut racler, parce que ça c'est important. Il m'est arrivé qu'on me dise, moi je trouve régulièrement des oiseaux morts autour de la mangeoire. Voilà, donc ça il faut faire attention parce que les oiseaux, ben, ils fientent dans la mangeoire et donc les maladies peuvent se transmettre. d'un à l'autre par cette alimentation. Donc il est important de bien racler sa mangeoire tous les jours, à chaque fois qu'on remet des graines. Quand on a des mangeoires synthétiques, c'est vrai que c'est peut-être plus facile de les laver, de les désinfecter. Mais même les mangeoires bois, je connais des gens qui les passent régulièrement au Javel. Très rapidement, ils le font, essuient bien et puis ils remettent des graines dessus. Alors, où installer ces mangeoires? Où est-ce qu'on peut nourrir les oiseaux? Bon, moi je conseille d'être un petit peu face à une fenêtre, face à un lieu de vie, à 3, 4 mètres, 5, 6 mètres. Les oiseaux peuvent s'habituer très très rapidement et très facilement au fait que vous soyez là, que vous bougiez, que voilà. Je connais même des gens qui mettent une mangeoire sur le rebord de leur fenêtre. Ça peut limiter un petit peu la fréquentation, parce que les oiseaux les plus craintifs risquent de mettre beaucoup de temps à venir ou de ne pas venir, mais les mésanges bleus, les mésanges charbonnières, les moineaux, les pinsons, etc. peuvent très très vite s'habituer. Si on met une mangeoire sur un poteau ou sur un arbre, je pense qu'il faut quand même la mettre au minimum à 1,50 m du sol. Et il faut la mettre au moins à 3 ou 4 mètres de tout buisson, de tout parterre de fleurs qui pourrait éventuellement servir de cache pour les chats. Parce que les chats, ils ont très vite repéré le manège des oiseaux et ils sont extrêmement intéressés par leur capture. Donc il ne faut pas non plus que la mangeoire soit un piège pour les oiseaux et qu'ils se fassent capturer par les chats du voisinage. On peut aussi, si on est sur une zone trop bien ventée, éviter les vents dominants et essayer quand même de... Voilà, il ne faudrait pas que ce soit le vent qui vide la mangeoire. Voilà, c'est vrai que ça, suivant l'endroit où on le positionne, c'est intéressant parce qu'on voit cette vie, ces oiseaux qui vont et viennent, qui peuvent se disputer, ça égaye, ça anime. C'est quand même passionnant et bon... Quand on a du temps, l'hiver, qu'on est devant sa baie vitrée, à voir les oiseaux qui font leur train, c'est quand même très très intéressant. Et justement, quels oiseaux on peut voir? Quels oiseaux fréquentent la mangeoire? Alors bien sûr, la mésange bleue, la mésange charbonnière, bon, le rouge-gorge qui vient notamment quand il n'y a pas trop de monde, le moineau domestique. Donc bon, certaines me disent « Ah, le moineau, ça m'embête qu'il vienne à la mangeoire. » Mais les moineaux, il y en a de moins en moins. Moi, j'en ai très très peu qui viennent. Quand j'en ai 7-8, c'est le grand maximum. Le pinson des arbres vient assez régulièrement, surtout au sol, lui. Mais il vient aussi dans la mangeoire. Et après, on a les verdiers et les chardonnerets qui peuvent vraiment mettre beaucoup d'ambiance parce qu'ils peuvent venir en groupe, ils se chamaillent. Ça fait beaucoup de belles couleurs puisqu'ils volettent sur place avec leur bande de jaune sur les ailes. C'est magnifique. On a la citelle torche-peau qui vient aussi faire son stock. Et puis après, on peut avoir des oiseaux un peu moins fréquemment, comme la mésange nonnette, l'accenteur mouché, le merle, le pigeon ramier, la tourterelle turque, le piquet-pêche, le piquemar. Parfois, on peut avoir des étourneaux et ça peut être un petit peu embêtant parce que s'ils arrivent à 40 ou 50, ils vous vident la mangeoire très très rapidement. Ça peut être le cas aussi du jet et de la pie ou du pigeon domestique. Bon, dans ce cas-là, on peut filtrer, on peut mettre un grillage de maille 3 ou 4 cm qu'on fait déborder largement à l'extérieur. Ça ne va pas du tout empêcher les oiseaux, les mésanges de venir. Les oiseaux qu'on peut voir aussi, mais peut-être un peu moins fréquemment, et puis ça dépend des endroits, c'est le gros bec. Très très bel oiseau aussi. Le pinson du Nord qui vient hiverner chez nous. Et quand il est là, il vient facilement au mangeoire. Mais on n'en a pas tous les hivers, comme les crobecs. On n'en a pas tous les hivers. Mais ce sont vraiment de très beaux oiseaux. On peut avoir le tarin des aulnes. Alors, ce sera plutôt en fin d'hiver, lui. Le serin cygni dans les zones basses, parce qu'il est plutôt migrateur. Mais dans les basses vallées, là, sur la vallée du Lot, de l'Aveyron, on peut en avoir pendant l'hiver. Si on a des plantations de conifères assez importantes, pas trop loin, on peut voir aussi de la mésange noire, de la mésange jupée. Et puis après, suivant les secteurs, on peut voir du monofriquet. Et puis, plus en zone de montagne, le bouvreuil pivoine, le sizerin. Voilà, donc on a quand même pas mal d'espèces qui peuvent venir. Et puis certains ont la chance de voir aussi de l'écureuil. Parfois des mulots. Alors bon, là, il faut faire attention, notamment quand on Quand on nourrit avec des trémies et qu'il y a des graines qui tombent au sol en permanence, c'est vrai que ça va attirer les souris, les mulots, les campagnols. Donc, bon, c'est aussi un argument pour le fait de nourrir tous les jours et que les graines soient terminées en milieu d'après-midi. Ça évitera effectivement aux rats, aux mulots de venir trop près de la mangeoire. Voilà, mais quand on nourrit depuis plusieurs années, les oiseaux prennent l'habitude et dès qu'on recommence, on a quand même pas mal d'oiseaux. Quand on le fait pour la première fois, ben, la fréquentation elle peut être un peu plus délicate. Des fois, on passe 5, 6, 7 jours sans rien voir. Mais une fois qu'ils ont trouvé, après, ils viennent régulièrement et tous les ans. Pour conclure, on peut installer une ou plusieurs mangeoires. Moi, ce que je conseille, c'est bien sûr les mangeoires à plateau avec quelques boules de graisse à proximité. Voilà, mais on peut compléter tout ça en ayant un petit point d'eau, en ayant une coupelle. Bon, si on a une petite mare, un petit point d'eau pas loin, c'est bien. Sinon, c'est bien d'avoir quand même de leur maintenir de l'eau à disposition. Bon, il faut faire attention au gel. Quand ça gèle, ben, il faut aller casser la glace tous les jours. Alors, il existe des petits dispositifs qui permettent de réchauffer l'eau. Alors, certains peuvent mettre de l'eau avec quelques gouttes d'un alcool fort, hein, d'une eau de vie, etc. Ça peut effectivement empêcher l'eau de geler, si les gelées ne sont pas trop fortes, sans porter préjudice aux oiseaux. On peut aussi ajouter quelques nichoirs à proximité, autour dans les 10, 15, 20, 30 mètres. Les oiseaux qui viennent se nourrir, comme les mésanges, peuvent aussi y dormir la nuit, rassembler, et elles luttent mieux ainsi ensemble contre le froid. On peut bien sûr semer des plantes qui donnent des graines, qui vont nourrir les oiseaux, comme les cosmos. On peut planter des arbustes à baies. Voilà, tout ça autour de sa maison, sur son terrain. On peut aussi garder un coin sauvage sur sa pelouse, et si on a de la pelouse, ne pas tout tondre. Voilà, petit à petit, en fait, on crée un refuge. Et donc, à ce moment-là, on peut devenir refuge LPO. Pourquoi pas? Voilà, je vous invite à aller sur le site de la LPO Aveyron, voir sur le site de la LPO nationale, voir sur le catalogue de la LPO. Vous pourrez trouver pas mal d'indications, pas mal de matériel. Et vous pourrez ainsi jouir de la présence des oiseaux chez vous et contribuer au maintien de la diversité, de la biodiversité. Bonne continuation à tous et à très bientôt.